Québec, Mauricie, Outaouais, Estrie, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Au réseau Cogeco,
Jérôme Landry,
Jonathan Trudeau,
Trudeau, Landry.
Bon matin, bienvenue dans Trudeau-Landry. Bienvenue. Très, très content que vous soyez là. Merci de nous avoir choisi pour passer les prochaines heures avec vous. C'est jeudi, la semaine avance, 25-226 pour nous joindre. Comment vas-tu, Joe?
Très, très bien.
Jonathan Trudeau qui est là. Bien sûr, Nico aussi qui est présent avec nous. De bonne humeur, mon ami Nico, comme d'habitude. Finalement, c'est ça que tu vas me répondre. Hein?
Voilà.
Oui. Sur une note plus légère, en commençant, si je vous avais dit, mettons, au début de la saison de la Ligue nationale de hockey, si vous aviez à gager sur, mettons, un joueur ou une gang de joueurs qui ferait le party, mettons, dans des chambres d'hôtel malgré la COVID, vous auriez dit qui, mettons?
Capitals.
Kuznetsov, Ovechkin.
Y a-t-il quelqu'un qui est surpris?
Est-ce que c'est la nouvelle la moins surprenante de l'actualité ce matin, ça? Que Alexander Ovechkin et Kuznetsov, son coéquipier des Caps, ont fait le party d'une chambre d'hôtel en respectant pas les règles de la COVID. Oui, vodka, puis peut-être... Kuznetsov, je pense qu'il s'était même déjà fait prendre le nez dans le sac, lui. En Russie, oui, ça avait été documenté, là. C'est ça, c'est des bons party animals. Et je vous avoue que quand j'ai lu la nouvelle, j'étais le gars le moins surpris du monde. Là, avec Ovi qui s'excuse sur Instagram et sur Twitter, l'amende pour les Capitals.
Un gros 100 000 piastres.
C'est sûr que monsieur, je pense que c'est monsieur Leon Sis, le propriétaire des Capitals, il doit pas être de bonne humeur parce que, tu sais, veut pas, il y a des grosses sommes d'argent en jeu. Là. T'sais, c'est bien beau, ah oui, on peut reporter quelques matchs, mais si les joueurs prennent pas ça au sérieux, ça peut se traduire par des pertes d'argent quand même assez importantes pour les équipes et les propriétaires de la Ligue nationale de hockey.
Et là, ils vont manquer probablement au moins un match, là, ce qu'on comprend. Fait que t'as quatre bons joueurs, dont un des meilleurs joueurs au monde, qui sera pas là. Moi, je serais pas surpris, parce que là, le 100 000, c'est la Ligue qui donne l'amende à l'équipe pour pas avoir respecté les protocoles COVID. Mais je serais curieux de voir s'il n'y a pas des équipes qui ont déjà fait ça ou qui vont pas être tentées d'avoir leur propre protocole.
Seulement
le 100 000, tu vas le payer, mais tu vas le payer plus, là.
Oui, parce que si on ramène ça, mettons, ici, dans nos vies ordinaires au Québec, quand tu respectes pas les règles aussi, il y a certains risques pour ton employeur là-dedans aussi. Quand tu décides de tricher puis de te foutre carrément, il y a comme un peu un manque de respect envers celui qui te paye aussi, avec ce que ça peut comporter comme interruption de travail, etc., etc. Donc, voilà. Mais on n'est pas surpris qu'Ovechkin a décidé de faire le party malgré la COVID.
Je me suis fait la réflexion que ça explique pourquoi Ovechkin, dans l'histoire, n'aura pas autant laissé sa trace que Crosby.
On embarque-tu là-dedans, là? C'est pas le même genre, là.
Ben non, c'est
la vie de Crosby a l'air d'une platitude épouvantable. Je veux dire, c'est... Je vais te parler de mon idole, Tom Brady.
Oui.
C'est mon idole sportive de tous les temps. Sa vie, penses-tu qu'elle a été équilibrée? Je pense pas, là. Pour pouvoir jouer au football à ce niveau-là, 43 ans, je pense parce que t'as peu de plaisir et de d'écart. Et moi, je pense que des fois, ça en prend un peu des écarts pour avoir une qualité de vie. Tu sais, manger de la crème glacée à l'avocat. Tu sais, Tom Brady, là, ça a été raconté. Je pense que c'est Michael Strahan, l'ancien joueur des Giants, qui avait raconté ça à un moment donné. Il l'avait croisé dans un party au mois de mars ou avril. Tu peux pas être plus saison morte que ça pour un joueur de football, mars-avril, OK? Ouais. Ils ont pas recommencé encore les camps d'entraînement et tout ça. Et il a offert un verre à Brady. Brady dit, non, moi, je prends rien, là. Puis ça, je respecte ça, là, tu sais, ceux qui prennent pas un verre. Mais lui, c'est une discipline maladive, là.
Heureux.
Ah, il y en a qui sont heureux comme ça, mais je trouve que la vie de Crosby a quand même l'air plate comparée à celle d'Ovechkin, là. J'adore le personnage d'Ovechkin. Crosby aussi, remarque.
Ah, moi aussi.
Personnage d'Ovi. Le hockey est un sport un peu beige quand tu le compares à la NBA puis à la NFL. Pas beaucoup de personnages hauts en couleur. Ça prend des Ovechkin, ça prend des Piqué Souban. Moi, quand j'entendais les partisans du Canadien dire que Piqué Souban était trop extravagant, je dis, je ne sens pas la NFL et la NBA, là. Il y en a des centaines.
Moi, j'ai ri comme tout le monde de voir Ovechkin dans Fontaine avec la Coupe Stanley, chaud ben raide, là. J'étais même au Centre Bell quand il y avait eu le match des étoiles à Montréal, puis que dans le concours de fusillade,
il était déguisé
avec un chapeau de cowboy, je sais pas trop quoi. Puis je trouve que c'est un des joueurs les plus excitants à regarder jouer, même encore aujourd'hui. Sauf que mon point est juste. Je dis pas qui a raison, qui a tort, mais lequel l'histoire va plus retenir dans 50 ans, ça va être Crosby.
Ça, c'est notre point de vue canadien. Crosby est un grand joueur, mais ça, c'est notre point de vue du Canada. Ovechkin est une... est quand même une superstar dans le monde du hockey. Là. Superstar international.
Jérôme, les résultats.
Ben, regarde les stats. Ça m'a dit de quoi? Je les ai pas devant moi, évidemment. Pis on fera pas un show de stats de sport pendant 4 heures. Mais regarde les buts, entre autres. Ovechkin,
juste les bagues. On va regarder les bagues.
Les bagues. Je te l'accorde. Les médailles d'or olympiques, je te l'accorde aussi. Mais ça reste un personnage très, très fascinant que ce Alexander Ovechkin. Plusieurs choses ce matin, encore beaucoup d'actualités. Juste vous dire en partant, on a beaucoup parlé de la semaine de relâche dans les derniers jours. Est-ce qu'il faut ou non annuler la semaine de relâche parce qu'il y a des craintes reliées à de la contamination possible, au voyage, etc., etc. Puis je vous disais, moi, dans mon réseau de parents, puis de... Je connais pas personne qui a décidé, hey, ouais, on va se payer un beau voyage à Cancun durant la semaine de relâche, puis après ça, les enfants vont être en quarantaine pendant 14 jours. Les chiffres qu'il y a dans la presse ce matin confirment à peu près ça, là. Actuellement, le pourcentage, quand on compare la semaine de relâche pour les réservations cette année versus l'an passé, c'est 1%. Il y a 99% de baisse, si vous voulez, là. C'est 1% des voyages qui avaient été réservés l'an passé qui ont été réservés cette année.
Bien.
Fait que c'est très, 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 très marginal. Sauf que la crainte qui est encore légitime, c'est un peu ce qu'on disait dans l'article de la presse ce matin, c'est qu'en voyant les cas diminuer, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, ben finalement, ça diminue, on va aller en voyage. » Ça, ça peut peut-être être une crainte qui reste, mais ça confirme ce que je pensais, c'est-à-dire que les projets de voyage durant la semaine de relâche, pour l'instant, c'est quelque chose de très, très, très marginal.
Mais je t'annonce que ça demeure une préoccupation de tous les instants pour le gouvernement du Québec. Et à 13h cet après-midi, François Legault va beaucoup parler de ça. Point de presse à 13h, évidemment. Comme on le fait de manière habituelle, on va en diffuser un bon bout. Mais pas d'annonce comme telle à 13h. On me dit que le bilan continue à être encourageant, les hospitalisations qui vont diminuer encore un peu, selon ce que je comprends. Mais là, Jérôme, ce qu'on va beaucoup nous parler, c'est... Et là, je te le dis, t'aimeras pas ce que je vais te dire.
Non, OK.
Là,
tu me... Merci de m'avertir.
Ben, merci tout le monde,
tu
là.
Tu commences à me connaître.
Prenez un grand respire. On risque de commencer à parler de la crainte de la troisième vague.
OK.
OK, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que les autorités de la santé publique sont inquiets de voir ce qui se passe à d'autres endroits avec le fameux variant. Et ils ont des craintes que éventuellement on ait une accalmie, mais que on me disait, attends, j'ai pris ça ici, fin février, début mars, qu'ils auraient peur, selon certaines projections, que ça remonte. Donc, eux, ce qu'ils vont dire aux Québécois, de ce que je comprends, là, c'est peut-être pas dans ces mots-là que François Legault va dire, mais raison de plus pour tout faire pour baisser le plus possible, diminuer le plus possible.
La deuxième.
Pour que s'il y a une vague, ben qu'on parte du plus bas possible. Et qu'on soit capable de faire face. Et là, j'entends les gens réfléchir, je t'entends réfléchir. J'ai posé la question, êtes-vous en train de me dire que le 8 février, il faut oublier ça, là, par la crainte d'une troisième vague? Puis on m'a dit, c'est absolument pas ce qu'on est en train de te dire. Qu'il y a des gens, que là, il est trop tôt pour savoir qu'est-ce qui pourrait se passer le 8 février, quelles mesures pourraient être allégées ou levées, mais qu'il y a des gens qui travaillent sur différents scénarios, différentes projections, et qui sont conscients qu'ils ne pourront pas maintenir ça tout le temps. Donc, je vous dis pas que... couvre-feu va se poursuivre, mais ce qui se disent en regardant la dynamique ailleurs dans le monde, les variants, celui du Royaume-Uni, ils craignent qu'on pourrait y avoir une troisième vague fin février, début mars.
Je suis pas surpris de ce que tu me dis là. Puis ça nous ramène à une plate réalité, Joe, c'est que je pense qu'il va falloir vivre avec ce virus-là pendant un certain temps. C'est pas quelque chose qui va disparaître, un peu comme la grippe, mais encore une fois, l'énorme différence, c'est qu'il n'y avait pas de vaccin et la façon dont on va vivre avec la COVID au cours des prochains mois, prochaines années, c'est avec l'avancement de la vaccination. C'est avec le plus de personnes possibles qui sont vaccinées. Ce qui va nous permettre de contrôler les hospitalisations et les gens qui se ramassent aux soins intensifs. Mais ça nous ramène à la réalité que c'est une maladie qui ne disparaîtra pas, là.
Ce matin, en Grande-Bretagne, on a annulé le fameux festival Glastonbury.
Mais oui, j'ai vu ça.
Qui était prévu pour... normalement, ça a lieu en juin. Et l'année dernière, on l'avait d'abord repoussé à octobre. Pour finalement l'annuler. Puis là, on vient de le réannuler on dit on se revoit en 2022.
Ça dépend de la vaccination. C'est le seul, c'est la seule façon de retrouver une vie normale. C'est-à-dire que ça va prendre une portion significative de la population qui va être immunisée contre cette maladie-là, ce qui va permettre le contrôle du nombre de cas. C'est la seule et unique façon avec laquelle on va sortir de la situation qu'on traverse et qu'on vit actuellement. Donc ça, c'est à 13h, Joe. Point de presse du premier ministre François Legault, mais c'est ça.
Juste à dire qu'on me dit qu'ils ont l'impression que le fédéral est en train de bouger. Ils savent pas encore qu'est-ce que le fédéral pourrait annoncer, mais cet après-midi, il y a une rencontre, après le point de presse, il y a une rencontre entre les premiers ministres des provinces et le premier ministre Trudeau. Et là, ils ont hâte de savoir ce que le gouvernement fédéral va dire. Moi, si j'avais à gager un petit deux, là, tu sais, quand on parle de la pression du lobby des transporteurs, est-ce qu'ils pourraient resserrer les critères sur le respect de la quarantaine au retour? Certains ont peut-être évoqué d'interdire un type de voyage, par exemple ce qu'on appelle les charter flights, les vols nolisés, donc des avions qui sont remplis pour des tout inclus. Moi, honnêtement, j'ai pas l'impression que Justin Trudeau va vouloir aller là. Ils ont hâte au niveau provincial de voir ce que le fédéral va leur dire cet après-midi en conférence téléphonique.
Voilà. Mais ce qu'on doit retenir de la réalité, là, puis c'est correct, OK, de prendre des précautions, puis je sais qu'il y en a qui ont peur aussi carrément, mais la réalité, c'est que pour l'instant, c'est marginal. Les projets de voyage à la relâche, c'est beaucoup de gens qui ont réservé aussi. Tu sais, à la fin de l'été, là, fin août, septembre, là, on était dans une situation où il n'y avait pas beaucoup de cas quotidiens. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Des gens qui avaient réservé à ce moment-là, et ce qu'on raconte, c'est qu'il y a beaucoup d'annulations. Fait qu'il y a des gens qui... le civisme existe encore. Ça existe encore des gens qui ont un sens du civisme et qui font passer un peu le civisme avant leur propre nombril. Parce que je connais pas personne qui a pas besoin de vacances et de soleil actuellement. D'après moi, sur 100 personnes, il y en a 150 qui ont besoin de soleil et de vacances en janvier comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres réels selon les agences de voyage. J'ai passé une soirée hier à regarder ce qui se faisait sur les réseaux américains en marge de l'investiture de Joe Biden qui s'est déroulée hier midi, mais ça a continué évidemment toutes les cérémonies, les célébrations durant la soirée. Puis je zappais hier entre CNN et Fox News et on voyait les deux Amériques. OK, sur tous les réseaux à part Fox et Fox News. Je parle de CNN, ABC, NBC, CBS. On diffusait le spectacle avec les artistes qui fêtaient, qui soulignaient, qui célébraient l'investiture de Joe Biden. On a vu Bruce Springsteen, on a vu Dave Grohl des Foo Fighters qui était là. Bon Jovi, John Bon Jovi qui a interprété Here Comes the Sun sur... C'était-tu John Bon Jovi?
C'est vraiment lui?
C'est... Mais tu sais, John Bon Jovi, ça me fait de la peine. J'ai vu son dernier show au Centre Bell. Il chante pas, c'est la foule qui a chanté.
Ben, juste, c'est plein d'Abraham show, ici. Il y a... Quoi, ça doit faire quasiment une dizaine d'années. C'était difficile.
Mais il y a 2-3 ans, là... c'était pas... Tu sais, des fois, la foule va chanter un couplet d'une chanson à un moment donné. Où, mais là, c'est les 2 heures de show que c'est la foule qui chantait les chansons. C'était un peu triste, puis... Écoute, John Bon Jovi est plus ce qu'il était, mais le symbole était quand même intéressant. As-tu quelques extraits d'ailleurs de ça, Benji? Parce que d'un côté, quand je parle des deux Amériques, il y avait ces réseaux-là qui nous présentaient la fête, la célébration avec les artistes, le positivisme. Puis je regardais mes amis de Fox News avec Sean Hannity puis Tucker Carlson, eux autres, ils étaient dans le chiolage, le côté sombre et les mauvaises nouvelles. C'était, sérieusement, quand tu zappais entre les deux, c'était frappant. Tu as quelques extraits, Benji, à nous faire entendre? On va écouter ça un peu.
Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right.
Donc ça, c'était John Bon Jovi, évidemment, préenregistré dans le coin de Miami. C'était pas le même. Moi, j'ai préféré Springsteen et surtout Dave Grohl des Foo Fighters. Puis j'ai trouvé ça bon parce qu'on parle beaucoup des gens qui travaillent en santé, puis avec raison. Mais lui, avant de présenter sa version de Times Like These, il s'est adressé aux enseignants. J'ai trouvé ça très, très bon. Puis on connaissait le Dave Grohl qui a du cœur puis qui a une conscience sociale.
It's times like these, learn to love again. It's times like these, time and time again.
Ça, à mon avis, ça a été la performance de la soirée. Et Tu vois, Nico, où le vrai talent de Dave Grohl, moi, je le vois plus dans ses performances-là. Les albums, c'est tellement... quasiment trop parfait, tu sais, quand c'est... Je sais pas, c'est peut-être juste moi qui vois ça comme ça, mais...
Non, mais c'est sûr
que son talent, on le voit dans les performances live.
C'est le but de voir des shows dans le temps qu'il y en avait.
Exactement.
C'est la musique prend une autre dimension sur scène.
Mais il y a des artistes qui sont moins bons live.
Ouais.
Mais lui, je trouve qu'il est c'est encore meilleur quand il est live comme ça.
Non,
comme,
non, il est très bon. Hier. Beaucoup d'énergie. Moi, ça, je l'ai écouté ce matin, là, parce que j'avais décroché avant ça. Mais, tu sais, ça prend 3 minutes 45 avant que ça décolle, par exemple. Bah! Je l'entendre là, c'est après 4 minutes.
Mais on fait pas du Vanity du Carlson, toi, là,
mais moi, j'ai décroché assez rapidement de cette soirée plate-là, sérieusement. Ah,
j'ai adoré ça hier.
Premièrement, Tom Hanks était très, très, très mauvais. Soit qu'il y avait beaucoup froid à la face ou qu'il y a beaucoup trop d'injections. La bouche ne bougeait pas, il était comme ça. J'ai même regardé la météo à Washington. Voyons, il fait-tu moins 25? Il faisait 1 degré. Il a l'air d'avoir froid, Tom. Donc, je trouve l'animation était franchement ordinaire. Bruce Springsteen, dans les marches du Lincoln, ça faisait le travail. Pour ouvrir,
moi, j'ai adoré l'ensemble.
C'est très bon, mais... Thunder's rolling down this track. Ça, c'était bon.
Solide. Très, très solide.
La petite guitare. Sauf qu'après ça, je m'excuse, mais ça s'est beaucoup transformé en show MTV. Si je veux écouter Much Music ou MTV, je vais écouter. Tu sais, c'est des vidéos préenregistrées avec du monde qui chante pas pour de vrai. Non, mais John Bon Jovi, là, c'était tellement mauvais. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est pourri. Puis là, après ça, c'était Justin Timberlake. Justin Timberlake, c'est un vidéo, dans le fond, là. C'est un petit vidéo où il se promène dans la rue, les petites mains basses.
Ouais, je te trouve sévère, tu sais. C'est parce que je sais pas.
J'aimais pas ça. J'étais bouché.
Non. Mais c'était l'ensemble de l'œuvre, moi, que j'aimais.
J'aimais mieux me chicaner avec ton monde sur ton Facebook.
Ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, tu fais ce que je fais d'habitude. Tu chicanais sur mon Facebook avec des haters.
Mais sincèrement, je suis certain qu'il y a eu d'autres bons numéros après. Là.
Katy Perry,
par exemple, je vais aller le réécouter. Je ne l'ai pas écouté. Mais je n'étais pas accroché. Et je pensais à l'utilité de cette soirée-là. Puis je me disais, les gens qui doutent de Biden, qui doutent de la pertinence de se débarrasser de Trump, est-ce qu'ils sont rassurés de voir une gang d'artistes se flatter?
Bon, là, il y a un piège là-dedans.
Pas sûr.
Moi, hier, je pense, moi, je regardais ça hier, puis je décrochais, ben, tu sais, comme je t'ai dit, j'écoutais Hannity, puis Carlson dans leur chiolage. Sérieusement, c'était pas endurable, là. Tu sais, il y a des journées, à un moment donné, où il faut que tu tasses un peu la politique et que tu célèbres le pays, si tu veux, puis que tu célèbres la démocratie puis la grandeur des institutions. Puis c'était un peu ça hier. Puis la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont repris espoir. Et moi, j'ai retenu quelque chose de Biden hier. Puis évidemment, c'est pas notre pays. Puis je lisais ce matin Facal, qui a un peu raison, qui dit que toutes nos prédictions sur les 4 prochaines années, tout ça est un peu futile. Il y a pas tort. Okay? On sait pas là, ce qui va se passer dans les 4 prochaines années. Mais on peut quand même jaser de politique un peu. Moi, j'ai retenu une chose de Biden, puis on va devoir vérifier s'il va respecter ça. C'est qu'il a promis d'être le président pour tous les Américains. Ce que n'était pas Trump. Trump était président pour sa base à lui, sa gang, nous autres, notre gang. Et je pense que Biden donne espoir à bien des gens parce que lui, je pense qu'il est capable, avec son expérience, sa bienveillance, sans trop tomber dans les émotions, d'essayer d'être le président de tous les Américains. Parce que quand tu es le président de tous les Américains, oui, tu dois être le président qui représente, tu sais, le travailleur moyen, le gars qui travaille fort d'une usine, le gars qui travaille fort d'une mine de charbon, la madame qui a une entreprise, qui travaille dans du manufacturier. Mais il faut aussi que tu sois le président des Afro-Américains, de ceux qui en arrachent dans la vie aussi. Des laissés pour compte. C'est ça être président américain aussi. Et c'est là, je pense que Biden a déjà réussi un peu à jouer cette carte-là de montrer qu'il va essayer à tout le moins d'être le président de tous les Américains. Est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est un autre paire de manches. Mais ça, pour moi, c'est assez évident.
Mais mon point, Jérôme, c'est que tous les gens que tu viens de mentionner là, ceux qui doivent être inclus dans la façon de gouverner de Joe Biden, ces gens-là qui sont pas rassurés par le fait que les démocrates retournent au pouvoir, qui ont peur que l'establishment soit encore plus puissant que tout, le copinage, etc., puis qui se disent « Ouais, Trump n'était pas parfait, mais tabarouette, il nous défendait. » Est-ce que ces gens-là, en regardant John Legend, Justin Timberlake, Katy Perry, Eva Longoria, puis tu sais, est-ce que ces gens-là ont été rassurés hier?
Ben, rassurés, je sais pas, mais c'était très rassembleur. Sérieusement, c'était très, très, très rassembleur. Moi, j'ai aimé ça. Écoute, c'est sûr que ça dépend à un moment donné des goûts, mais je trouvais que ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui est rassembleur dans la culture américaine? Tu sais, le Super Bowl halftime, la mi-temps du Super Bowl, le spectacle, t'as l'impression que tout le monde est tenté de regarder ça, que tout le monde met un peu sur pause sa vie, ses choses, et que tout le monde est en train de vivre ce moment-là, puis je suis peut-être trop dans les émotions, Marc, ce matin, là, c'est pas
impossible.
Non, mais,
en même temps, Jérôme, je suis pas en train de, je te critique pas d'avoir aimé ça, là.
Non, je sais.
Tu sais, comme notre collègue Benji, il me juge parce que j'ai pas aimé ça, là. Benji,
on trouve sévère, on trouve sévère.
Non, mais c'est le feeling que j'avais à avoir de ce qui s'est passé hier. Moi, je l'ai eu en regardant Biden prêter serment. Avec Lady Gaga qui a chanté l'hymne national, il y avait une image forte de voir le respect des institutions. Tu sais, moi, le gros ouf, la pof d'air, ce que j'ai appelé la pof de Ventolin là, sur Twitter, je l'ai eu quand j'ai vu ça hier. Après ça, le reste, c'est un show de musique.
C'est un show de musique.
Puis moi, un show de musique de vidéo préenregistrée, canée, ça me fait juste pas triper. Fait que je l'ai regardé un peu.
Ouais.
Puis ce que j'avais à tirer de cette journée-là, je l'avais eu plus tôt. J'ai été me coucher, puis c'est tout. Là,
faut dire qu'il y avait beaucoup de mes artistes préférés aussi là-dedans. T'sais, personnellement, moi, tu sais, Grohl, puis même Katy Perry, puis Springsteen, moi, ça venait me chercher à la base aussi. C'est des gens que j'appréciais à la base. Mais tu sais, le sport et l'art ont ça de positif. C'est qu'il y a un côté rassembleur à ça. Après ça, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui font dire, moi, le tel perfo, bof.
C'est ça.
C'était plus ou moins bon, mais moi, en tout cas, j'ai aimé.
Mais il risque qu'il y a le piège d'associer le Hollywood à Washington.
Ouais,
Hollywood qui redébarque à Maison Blanche, puis que c'est comme une espèce de clique qui est représentée.
Oui.
Je dis juste, faut faire attention. Puis tu sais que CNN, que les gens étaient dans une tonalité différente de Fox, c'est pas surprenant. Puis à la limite, je peux le comprendre. Ça fait 4 ans de temps qu'ils se faisaient vomir dessus par un président belliqueux. Sauf qu'il va falloir que aujourd'hui, je veux que CNN ait un sens critique aussi, là.
Ah, eux autres, écoute.
Je veux que CNN parle des enjeux. Je veux que CNN parle de trucs qui seront pas souhaitables. Je vais m'attendre à ce que CNN soit capable d'être critique une fois que la porte de Trump est fermée.
C'est clair. Mais moi, j'ai repris l'habitude d'écouter beaucoup les bulletins de début de soirée des trois grands réseaux américains. ABC, NBC, CBS. Ils sont très objectifs. Sérieusement, là, je trouve qu'ils font un très, très bon travail. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont un bon sens critique là-dedans. Mais t'as raison que le piège pour un président américain, puis encore, là, c'est notre opinion assise ici au Québec d'une société beaucoup moins complexe que la société américaine, ça vaut ce que ça vaut. Mais je pense quand même que des fois, il y a un piège, effectivement, de dire, ouais, OK, je vais gouverner, faire plaisir aux lobbies, puis à la gauche d'Hollywood, puis aux artistes. Mais j'oublie le citoyen ordinaire. J'oublie le travailleur ordinaire. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai quand même l'impression, je peux me tromper, que Biden a un peu cette préoccupation-là d'être le président de tous les Américains.
Puis encore là, regarde, hier, dans l'après-midi, pendant la cérémonie d'inauguration, il y a eu Garth Brooks, qui est country, donc plus à droite, peut-être plus les électeurs de Trump, en principe. Puis il s'est fait reprocher d'avoir participé à l'inauguration de Biden. Fait que tu gagnes pas, là. T'sais.
C'est ça. OK. Il est déjà 10h22. Tabarnouche. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça déborde tellement de sujets à venir dans les prochaines minutes. Vous écoutez Trudeau-Landry.